aborder l'enseignement que j'aimerais avoir ce matin avec vous, toujours sur la question de l'homme, de ce que représente finalement l'homme, de ce qu'est l'homme aux yeux de Dieu, et finalement de ce qu'en tant qu'humain nous sommes appelés à vivre et à faire dans ce monde. Et pour cela, j'aimerais d'abord lire un verset avec vous dans les psaumes. Psaume 8, à partir du verset 7, où je lis ceci. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Ce texte va nous servir de trame ou de guide sans que je le commente très directement, mais il évoque la condition de l'être humain aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que l'homme ? La dernière fois, nous avons vu plusieurs choses, que notre corps a été créé bon par le Créateur et que nous avons à le recevoir comme un cadeau qu'il nous a donné. Nous avons vu aussi que notre société a tendance à idolâtrer le corps et que nous avons à être contre-culturel, à ne pas aller dans le sens de l'idolâtrie de notre corps, encore à qui nous devrions tout, à qui nous devrions tout sacrifier. Nous avons vu également que le corps nous appartient, mais qu'il ne nous appartient pas pour des désirs égoïstes et que tout soit tourné sur nous-mêmes. Ce corps qui nous appartient est destiné à servir Dieu. Il doit être un instrument de bénédiction. Par mon corps, je suis appelé à glorifier le Créateur. Et nous avons vu à la fin que notre corps a été créé en image de Dieu. Et c'est par là que j'aimerais commencer ce matin, pour développer encore un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Notre corps a été créé en image de Dieu. Et c'est ce qui nous distingue des animaux, qui eux n'ont pas été créés en image de Dieu. L'être humain est l'unique créature qui a été créé en image de Dieu. Ça lui confère un statut, une dignité qui est toute particulière. Aucune créature ne possède la dignité de l'être humain. Et l'être humain n'est pas digne à partir du moment où il peut être en relation avec les autres ou à partir du moment où il aurait certaines capacités, mais l'être humain est digne dès le moment où il est être humain, c'est-à-dire dès la conception, dès les premières heures de son existence. Et il est digne jusqu'à la fin de son existence. Peu importe la manière dont nous terminons notre vie, nous restons dignes aux yeux de Dieu. Nous sommes dignes quand nous sommes un fœtus. Et d'ailleurs, c'est paradoxal d'appeler un être humain simplement un fœtus. C'est déjà un être humain. Et parfois, le fait de l'appeler fœtus, c'est une manière d'éviter à devoir l'appeler un être humain. Et nous sommes dignes même quand nous n'avons plus notre raison ou que nous sommes atteints de la maladie d'Alzheimer à la fin de nos jours. Chaque être humain, peu importe son sexe, homme ou femme, peu importe son âge, peu importe ses origines sociales ou ethniques, peu importe les capacités physiques qu'il a encore, peu importe le fait qu'il puisse encore être utile aux autres ou qu'il se sente à la charge de la société, chaque être humain est digne aux yeux de Dieu parce qu'il était fait en image de Dieu. C'est Dieu qui donne cette dignité. Imaginez ce que dit l'Écriture, elle nous dit que quand je vois un être humain, je vois l'image de Dieu sur la terre. En fait, l'homme et la femme sont tous deux une image de Dieu sur la terre. Ils ne sont pas Dieu, mais ils sont une image de Dieu. Une image qui renvoie à l'original, ça reste qu'une image, mais une image qui renvoie à qui est Dieu. En voyant un humain, je devrais avoir une idée de qui est Dieu, parce que cette image me renvoie à l'original. Alors malheureusement, l'humain devient parfois inhumain, cette image devient parfois caricature, cette image a été abîmée, corrompue par le péché, et quand quelqu'un perd son humanité, qu'il devient inhumain, on est en peine de voir encore ce qu'il y a de Dieu dans cette personne. En perdant son humanité, il devient que caricature de ce qu'il devrait être, de ce que Dieu a voulu pour lui à l'origine. Et Dieu se met en colère contre cela. Dieu est en colère pour ce qui déforme son œuvre. Dieu est en colère contre le péché. Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer cette image. Il est venu pour porter la colère de Dieu quand il était à la croix. Et il a payé le prix qui était nécessaire pour que cette image puisse être restaurée. Prenez l'image d'un restaurateur d'art. Celui qui travaille dans la restauration d'œuvres d'art effectue souvent un travail extrêmement sensible, extrêmement délicat. Si vous restaurez une peinture qui a été abîmée par le temps, ça va être un travail très minutieux. Il faudra être attentif à ce que l'on fait. Et pourtant, parfois, le restaurateur d'art est capable de miracles. Il y a des peintures où l'on a peint par-dessus une ancienne peinture. Le restaurateur est capable d'enlever la couche de dessus pour retrouver la peinture originelle. Eh bien, c'est un peu pareil pour nous. Il y a une œuvre originale, mais parfois qui était recouverte de plein de choses qui ne sont pas très jolies. Et Dieu effectue un travail de restauration de l'œuvre d'art que nous sommes. En voyant les dégâts de la peinture, en voyant les dégâts de l'œuvre d'art que nous sommes, Dieu aurait pu se dire « je jette tout à la poubelle, c'est fini, ça ne vaut plus la peine ». Au lieu de cela, Dieu aime ce qu'il a fait, il n'a pas envie de recommencer à zéro, et il choisit de reprendre ses œuvres d'art, de les amener dans son atelier et de les restaurer pour qu'elles retrouvent leur éclat originel. Voilà ce que Dieu fait avec nous. Il nous prend dans son atelier, il travaille la matière, tel un potier qui travaille la matière, et il permet de retrouver cet éclat que nous avions au départ. Quand je vois un chrétien, je vois une œuvre d'art de Dieu. Je vois une œuvre d'art que Dieu est en train de restaurer. Elle n'est pas encore parfaite, cette œuvre. Mais, si vous voulez, la vie chrétienne, c'est comme le moment, au moment de la conversion, c'est comme si la conversion, c'était le moment où Dieu me prend dans son atelier et commence à effectuer ce travail de restauration. Mais ce travail de restauration va durer l'espace d'une vie. C'est un long travail de patience. C'est tout le travail de la sanctification. Dieu va travailler la matière. Et l'éclat original, finalement, ne sera retrouvé qu'au moment où je paraîtrai devant Dieu. Et où, à ce moment-là, le travail sera achevé. Quand je serai dans la gloire éternelle, ce qui était abîmé par le péché sera complètement restauré. C'est vrai pour un croyant, mais est-ce qu'un non-croyant peut encore être considéré comme étant en image de Dieu? Je crois que la Bible affirme qu'un non-croyant est aussi encore en image de Dieu. Il garde de ce fait-là une dignité, mais cette image, justement, est recouverte parfois de plein de choses qui nous empêchent de voir ce qu'il y a encore derrière. Il n'empêche que ça reste à l'origine une œuvre d'art de Dieu, qu'à ce titre-là, il garde la dignité qui lui est conférée parce qu'il est image de Dieu. Quand on parle d'une image, on parle de quelque chose qui ressemble à l'original. On peut se demander en quoi, en tant qu'être humain, nous ressemblons à Dieu. Le texte de la Genèse nous dit que nous sommes créés en image, mais ne dit pas exactement ce que représente cette image. Et il me semble qu'on peut prendre appui sur le Dieu trinitaire pour essayer d'esquisser ce qu'est cette image, en quoi nous ressemblons à Dieu. Dieu d'abord est Dieu le Père. Et en tant que Dieu le Père, il gouverne ce monde. Et Dieu nous a appelés aussi à gouverner ce monde par délégation. Il nous a appelés à dominer ce monde. Nous sommes dans ce monde les représentants du Dieu créateur et nous sommes appelés à gérer sa création. Donc dans ce sens-là, nous sommes en image de Dieu. Par délégation, nous faisons le travail de Dieu. Dieu est aussi le Fils. Et le Fils, c'est la parole de Dieu, c'est le Logos divin. Dieu est parole et Dieu nous a donné la parole, nous a donné l'usage de la parole pour communiquer. Cela implique que nous communiquions entre nous, mais cela implique surtout aussi que nous sommes restaurés par Dieu, que nous communiquions sa parole. Dieu est aussi esprit, et parce qu'il est esprit, il a la capacité de raisonner, de penser, de réfléchir. Et quand Dieu pense, il pense toujours juste, quand il réfléchit bien. Et Dieu nous appelle à sa ressemblance. Il nous a aussi donné un esprit qui est capable de raisonner, d'avoir parfois même des raisonnements très abstraits, très compliqués. Quand Dieu fait son travail de restauration, il aimerait qu'on apprenne à raisonner bien, à raisonner comme lui, parce que nous sommes en son image. Dieu est Père, Fils et Esprit, et cela veut dire qu'il est trois, et qu'il y a une communion au sein de Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu est un être de relation. Et dire que nous sommes en image de Dieu veut aussi dire que nous sommes des êtres de relation. Dieu n'a pas fait pour que nous soyons seuls. Dieu a souhaité que nous soyons des êtres de relation. Dieu est Dieu parce qu'il a des qualités morales. Il est saint, il est juste, il est bon. Être fait en image de Dieu, c'est devenir comme Dieu, saint, juste et bon, plein d'amour. Dieu est aussi un Dieu qui est missionnaire. Il mène une mission dans ce monde. Être fait en image de Dieu, c'est entrer dans la mission de Dieu. Dieu nous a donné cette capacité d'entrer en contact avec lui. Dieu nous a donné en tant qu'être humain la capacité de parler à Dieu. Cette capacité n'est pas donnée aux animaux. C'est une spécificité de l'être humain. Et c'est ainsi que le psaume 8, verset 6, nous dit à propos de l'homme, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. » Si vous voulez, l'homme est un terrien. Il était fait à partir de la terre. Mais Dieu lui a donné une place toute particulière au sein de sa création. J'ai envie de dire que Dieu était généreux avec les humains. Ce sont ses créatures, mais des créatures qui ont un statut particulier, qui sont mises à part. Dieu a honoré l'être humain en lui donnant la domination sur sa création. Il a même fait frôler la divinité à l'être humain, nous dit le psaume. Et c'est intéressant que même les anges, que l'apôtre Pierre décrit comme étant puissants, étant forts, nulle part dans la Bible, on ne voit qu'ils ont été créés en image de Dieu. Donc il semble que même dans ce domaine-là, l'être humain a un statut particulier par rapport aux anges. Alors sur cette question d'image de Dieu, j'aimerais vous citer juste quelques lignes de notre frère Henri Blocher dans son livre « Révélation des origines ». Il dit ceci, « Une image n'est qu'une image. L'image n'a d'existence que dérivée. L'image n'est pas l'original et l'image n'est rien sans l'original. » Et que l'homme soit donc image souligne la radicalité de sa dépendance. Et il ajoute, l'homme reste infiniment inférieur à son créateur, il est créature et rien que créature. Et de ce fait, dès sa première page, la Bible exclut le thème païen de la divinisation de l'homme. L'esprit qui était conféré à l'homme n'émane pas comme une parcelle de l'esprit de Dieu. Alors, Henri Blocher nous dit plusieurs choses dans ces quelques lignes, mais il rappelle de manière fort utile que nous sommes des créatures et que nous avons à rester dans ce statut de créature. Et que de ce fait-là, nous dépendons radicalement du Créateur. Et on peut se demander si nous gardons notre statut de créature en tant qu'humain quand nous nourrissons le désir, par exemple, de créer des clones humains. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes rêvent d'immortalité, rêvent de devenir autonomes par rapport à Dieu et rêvent donc d'avoir un clone qui pourrait les prolonger une fois qu'eux ne seront plus là. On peut se poser la question si l'être humain ne cherche pas à prendre la place de Dieu et à être le créateur quand il veut maîtriser la vie et la mort et quand il veut maîtriser peut-être sa vie et sa mort. Dans le Deutéronome, nous lisons très clairement que celui qui maîtrise la vie et la mort, c'est Dieu. Deutéronome 32-39 dit « Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir. » Si c'est Dieu qui est le maître de la vie et de la mort, est-ce que la femme ne se met pas à la place du Créateur quand elle veut obtenir un bébé une fois qu'elle n'est plus en âge de procréer grâce au fait qu'elle aurait congelé ses ovocytes? Est-ce que elle ne se met pas en situation d'être Dieu quand elle veut obtenir le sperme d'un donneur anonyme pour avoir un bébé alors qu'elle ne vit avec aucun homme? Est-ce que la médecine telle qu'elle est en train de se développer en matière de procréation ne va pas au-delà de sa mission? La médecine est là pour assurer des soins. Or aujourd'hui, de plus en plus, la médecine est là pour contourner des impossibilités naturelles de procréer. Et cela peut donner le sentiment d'un pouvoir que la médecine a qui devient presque l'égal du Créateur. C'est bien sûr une illusion. Mais on voit dans cette volonté de maîtriser la naissance un désir de s'autonomiser par rapport à Dieu, de ne pas accepter ce que Dieu fait et de vouloir décider soi-même à la place de Dieu. Je me demande aussi où est la limite quand la médecine commence à décider du moment de la mort. Aujourd'hui, la réanimation ou la décision d'arrêter un traitement est parfois le fruit d'une décision médicale. Parfois, on ne peut pas faire autrement, mais ça pose la question de la limite du pouvoir humain en matière de mort. Quand on s'acharne sur quelqu'un, que l'on teste encore des traitements, n'est-on pas en train de prendre la place du Créateur ? Je pose la question de la légitimité aussi de certaines recherches médicales. Aujourd'hui, en matière de la recherche génétique, on argumente souvent qu'il faut permettre la recherche sur des souches, des embryons souches, par exemple, des cellules souches, pardon, pour des mesures thérapeutiques. Mais est-ce que parce qu'on pourrait peut-être un jour guérir des personnes en faisant ces recherches, cela justifie que l'on détruise des êtres humains qui sont à l'état embryonnaire? Je crois que dans la Bible, la fin ne justifie jamais les moyens. Et ce faisant, l'homme cherche souvent à se mettre à la place de Dieu. Et il n'a pas à se prendre pour Dieu. Être image, ce n'est pas être l'original. Nous ne sommes qu'image. Et nous ne sommes rien sans l'original. Nous sommes des terriens, nous ne sommes pas des dieux. Si Dieu nous a donné une intelligence, ce n'est pas pour chercher à revendiquer la place de Dieu. Mais cette intelligence doit être mise au service du bien, du bien de la création, du bien des créatures. Cette intelligence ne doit pas être mise à profit pour chercher à disposer des autres ou pour chercher à manipuler les autres. Voilà ce que j'avais à dire sur la notion d'image de Dieu. Et j'aimerais passer à une autre question maintenant, qui est celle de savoir comment nous sommes faits. Alors nous sommes faits en image de Dieu, mais comment notre être est constitué? Certains disent que nous sommes un, unique, unifié. D'autres disent que nous sommes deux, duels. D'autres pensent que nous sommes faits en trois parties. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Sommes-nous un corps qui serait corps et âme de manière indissociable? C'est ce qu'on appelle le monisme. Sommes-nous un corps et une âme? Ce qu'on appelle le dualisme. Ou sommes-nous formés de trois parties, corps, âme, esprit? Et puis, qu'est-ce que cela change de savoir cela? Je reviens au récit de la Genèse, au chapitre 2. Et dans le récit de la Genèse, je vois que Dieu a formé l'être humain de manière très explicite en deux parties. Genèse 2, verset 7, nous dit que Dieu a d'abord modelé le corps d'Adam à partir de la poussière, première étape. Deuxième étape, il lui a insufflé un souffle de vie, et c'est ainsi que, avec son corps et avec le souffle de vie, il devient un être humain. Je lis Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, quand les auteurs humains parlent de la manière dont nous sommes créés, dont nous sommes formés, ils n'en parlent pas à la manière scientifique d'aujourd'hui. Ils évoquent d'un côté une partie visible, qui est le corps, et d'un autre côté une partie invisible, qui est l'âme, ou l'esprit. Et quand ils en parlent, ils évoquent d'abord le fait que nous sommes une entité. Une entité où l'âme et le corps travaillent ensemble, où on ne peut pas les dissocier. Chaque fois que les auteurs humains parlent de l'être humain, ils en parlent comme d'une entité. L'accent est mis là-dessus. Adam, c'est une personne unifiée dont le corps et l'âme vivent et agissent ensemble. Ce n'est pas le corps contre l'âme ou l'âme contre le corps. Et pour nous aussi, quand Dieu considère notre vie, il ne nous demande pas simplement de croître, par exemple, dans notre âme. Quand il nous demande de grandir en sainteté, il nous demande de grandir en sainteté dans notre corps et dans notre âme. Les deux vont ensemble. Nous sommes, aux yeux de Dieu, un être qui a une unité. Quand Dieu nous demande de nous purifier, il nous demande de nous purifier de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit. De Corinthiens 7, verset 1. Alors nous sommes faits, d'après le texte de la Genèse, d'un corps et d'une âme. Et pourtant, pour les étudiants qui sont en cours de SVT, ils auront bien du mal à entendre parler de l'âme et de là où se trouve l'âme. L'âme n'est pas un organe, l'âme n'est pas notre cerveau, et l'âme n'est pas réductible à la production chimique ou électrique de notre cerveau. D'après l'Écriture, l'âme continue d'exister même quand le cerveau n'a plus aucune activité. Quand notre corps est cliniquement mort, l'âme demeure. On peut donc dire que l'âme, c'est la partie invisible de notre être. C'est ce que la Bible appelle parfois l'être intérieur. On pourrait dire encore que l'âme, c'est la partie immatérielle de notre être humain. J'ai dit avant que nous étions un. Et effectivement, le corps et l'âme interagissent ensemble. Si je passe par exemple par un drame personnel extrêmement important, par un divorce compliqué ou je ne sais quel autre drame, par une mort violente à mes côtés, je suis susceptible de développer une maladie physique. Parce que le corps va réagir aussi à ce qui se passe dans mon âme. À l'inverse, si demain je fais un accident de voiture et que je me retrouve tétraplégique et que je n'accepte pas ma condition nouvelle, ce qui se passe dans mon corps risque d'avoir une répercussion dans mon âme et je risque de faire une dépression grave. Donc on voit bien qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'âme, que les deux vont ensemble. Chaque acte de ma vie implique mon corps et mon âme, à des degrés divers, mais ça implique toujours les deux. Si nous sommes corps et âme, nous sommes quelque chose de... Nous avons une nature spécifique. Nous sommes différents des animaux qui, eux, n'ont pas reçu l'insufflation du souffle de vie. Ce souffle de vie, Dieu ne l'a donné qu'à l'être humain. Dieu dit qu'il a soufflé un souffle de vie, c'est un neshama en hébreu, et lui a donné quelque chose qui lui a donné son statut d'humain. C'est quoi ce souffle de vie que Dieu a donné? Dans le livre des Proverbes, il est question du souffle de vie qui est comme une lampe, qui éclaire notre être intérieur. Proverbe 20-27 dit « Le souffle de l'être humain, donc ce neshama qu'on retrouve dans la Genèse, est une lampe du Seigneur, elle explore tout jusqu'au fin fond du corps. » Donc si ce souffle de vie qu'on appelle l'âme, qu'on appelle l'être intérieur, est aussi une lampe, on peut dire que c'est le siège de la conscience. Dieu nous a donné ce souffle, et en nous donnant ce souffle, il nous a donné une conscience, qui est cette partie immatérielle de l'être humain. Dieu nous a donné une conscience, et donc il nous a donné un esprit. C'est notre esprit qui est notre conscience, mais l'esprit qu'il nous a donné n'est pas son esprit. Certains pensent parfois que l'homme serait fait du corps et d'un esprit qui serait l'esprit de Dieu. Nous aurions un tout petit bout, si vous voulez, de divinité en nous. Et nous ne serions pas complètement hommes, mais nous aurions la divinité en nous. Et je crois que l'Écriture s'oppose très formellement à cette conception des choses en précisant que l'esprit que Dieu nous a donné, ce souffle de vie, est quelque chose que Dieu a créé. C'est intéressant de voir que le texte de la Genèse qui dit que Dieu nous a façonnés, a façonné notre corps à partir de la poussière, Zacharie le prophète reprend le même verbe, façonner, pour dire que ce souffle de vie qui était mis en nous, Dieu l'a façonné en nous. Écoutez, Zacharie 12, verset 1, « Déclaration du Seigneur qui déploie le ciel et fonde la terre et qui a façonné le souffle de l'homme au-dedans de lui. » Donc, tout comme Dieu nous a façonné notre corps, comme un potier modèlerait son œuvre d'art, Dieu a façonné notre souffle, il a façonné notre conscience, il a façonné notre être intérieur, il l'a créé comme il a créé le corps. Notre esprit n'est donc pas l'esprit de Dieu en nous, mais c'est un esprit, une conscience que Dieu a faite comme il a fait notre corps. Ça veut dire que nous sommes entièrement humains. Aussi bien notre corps que notre esprit, aussi bien notre corps que notre âme. J'aimerais tirer deux enseignements à partir de cette conception de l'Écriture que nous sommes corps et âme. La première, c'est que si nous sommes entièrement humains, que notre esprit n'est pas une parcelle de l'Esprit de Dieu en nous, nous ne sommes donc pas un prolongement de Dieu, nous ne possédons pas la divinité. Ça veut dire que notre esprit n'est pas un esprit éternel, il a été créé par Dieu. Et donc ça nous rend profondément humains. Nous sommes au même rang que les autres créatures. Même si nous avons un statut particulier, nous sommes des créatures comme les animaux sont des créatures. Et donc il y a un destin commun, un lien qui nous lie aux animaux. L'homme et l'animal ont tous deux été façonnés à partir de la terre, dans le récit de la Genèse. Donc nous avons une solidarité à l'égard de la création. Et dans ce sens-là, je pense qu'on est en droit de parler des animaux comme étant nos amis. Et pas seulement les chats et les chiens, mais je pense même aux autres animaux. Aux oiseaux qui mangent des araignées, aux araignées qui mangent des moucherons. Nous avons une forme de solidarité avec la création. J'ai un frère qui est ingénieur agronome. Et il aime bien parler de la réconciliation à laquelle nous sommes appelés avec la création, avec la nature. Dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, nous avons développé quantité d'insecticides, de fongicides, de produits qui tuent. Ces produits sont appelés à tuer, à lutter contre les ravageurs, et tous les termes qu'on emploie, ce sont des termes très guerriers finalement. On parle de lutte contre les ravageurs, de nuisibles, comme si la création nous était hostile par nature. Or, nous sommes créatures dans la création de Dieu. Chaque être vivant que Dieu a créé a un rôle spécifique dans la création. Même les moustiques. Les moustiques sont utiles au développement de la nature. J'ai lu que les larves de moustiques dégradent par exemple toute la matière organique qui se trouve près des flaques d'eau. Puis ensuite, ces larves découpent les feuilles en petits morceaux et rendent l'azote organique disponible pour des bactéries qui, à leur tour, rendent cette matière disponible pour les plantes. Et c'est ainsi que si vous avez des larves de moustiques autour d'une flaque d'eau, il y aura plus de vie. Vous enlevez ces larves, il y aura moins de vie autour de l'eau. En même temps, les moustiques servent de délicieuses nourritures pour les libellules, pour les poissons, pour les oiseaux. Quand on détruit cette vie par l'utilisation massive de produits phytosanitaires, dans les cultures ou ailleurs, quand on veut enlever ce qu'on appelle les mauvaises herbes, pourquoi elles sont mauvaises? Dieu a créé toutes choses bonnes. Nous dépassons souvent notre rôle d'intendant de la création. Si Dieu nous a donné la domination sur la terre, ce n'est pas pour anéantir la terre. Alors il y a une limite. Dieu a fait de nous des dominateurs, mais pas des exploiteurs. Nous dominons ce monde, mais nous ne sommes pas appelés à l'exploiter. La différence se tient où? Je pense que la différence réside dans le fait que nous avons à respecter la nature dans laquelle nous sommes, mais nous avons le droit de mettre des limites pour nous protéger quand la nature peut devenir envahissante parce qu'il y a un dérèglement. Je pense aux maisons que nous avons en Suisse, dans le canton du Valais, où c'est au 19e siècle, hein, les paysans récoltaient des céréales, mettaient ça dans des greniers bâtis à flanc de coteaux. Le problème, c'est qu'il pouvait y avoir des parasites, des rats qui venaient et qui mangeaient ces récoltes. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ont surélevé les maisons, ils les ont mises sur des pieds, si vous voulez, et puis ils ont mis une grosse pierre sur le pied avant de bâtir la maison dessus, de telle manière à ce que le rongeur n'arrive pas à monter dans le grenier. Oui, nous avons à nous protéger parfois. Il n'y a aucune raison que les animaux viennent manger les produits de l'homme et le fruit du travail de l'homme. Si un moustique cherche à me piquer, j'ai le droit de me défendre, au contraire d'une certaine philosophie bouddhiste, par exemple, qui voudrait que certains animaux, il ne faut pas qu'on y touche, j'ai le droit de le tuer. Si certains moustiques infectent les humains de maladies mortelles, avec la malaria ou avec la dengue, il est normal que je cherche à me protéger d'eux. Mais est-ce que ça justifie pour autant certaines tentatives qui existent dans les pays d'Amérique latine aujourd'hui de lancer à très large échelle sur des régions entières des insecticides qui tueraient tous les moustiques pour qu'il n'y en ait plus aucun, sachant que ce faisant, nous allons détruire plein d'autres choses. Vous voyez, nous sommes créatures dans ce monde partageant une solidarité avec les autres créatures, mais nous avons un statut particulier qui est celui de dominer ce monde. C'était la première remarque sur le fait que corps et âme sont créés par Dieu. La deuxième que j'aimerais faire, c'est que si corps et âme ont été créés par Dieu, il n'y a pas un qui serait inférieur à l'autre. Le corps n'est pas moins que l'âme, ou l'âme n'est pas moins que le corps. Il y a un vrai enjeu aussi là-dessus, parce que Platon, philosophe grec qui a vécu environ en 400 avant Jésus-Christ, défendait l'idée que l'âme, et l'âme se dit psyché en grec, qui a donné notre terme psychisme en français. Il défendait l'idée que l'âme était de loin supérieure au corps et que l'âme était immortelle. Il considérait donc que le corps, c'était comme une forme de prison pour l'âme. Or, quand je lis l'Écriture et ce qu'elle dit à propos du corps, je ne vois jamais l'idée que le corps serait une prison pour l'âme. Le corps est décrit comme un temple, le temple dans lequel Dieu peut résider. Ce n'est pas une prison, c'est tout l'inverse. Et ça montre bien que la spiritualité ne concerne pas que mon âme, mais elle concerne mon corps, puisque Dieu vient résider dans mon corps. Et quand je communique avec Dieu, je ne communique pas avec Dieu qu'avec mon âme, mais aussi avec mon corps. Et que tout ce que je fais concerne mon corps et mon âme. Malheureusement, il est toujours difficile de s'extraire complètement de la culture dans laquelle on est. On est souvent influencé par les idées dominantes de la société. Et c'est ce qui fait que beaucoup de pères de l'Église, dans les premiers siècles du christianisme, ont été influencés par la vision platonicienne et ont dévalué le corps pour essayer d'élever l'esprit. Cette tentation-là conduit à deux types d'erreurs. La première, on la trouve déjà dans l'Épître aux Corinthiens. Ce sont des croyants qui pensent que puisque le corps n'aurait pas d'importance, on peut en faire ce que l'on veut. Et certains chrétiens de Corinthe se permettaient d'avoir encore des contacts avec des prostituées sacrées, comme lorsqu'ils étaient païens. Et Paul va leur répliquer, les corriger en disant « Mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Ce que vous faites avec votre corps aura une incidence sur votre relation à Dieu. » Eux pensaient que ce qui comptait, c'était que l'esprit. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec leur corps, ça ne changerait rien à leur relation à Dieu. Et Paul doit leur expliquer que si. Et il leur dit « Fuyez donc la conduite sexuelle. » 1 Corinthiens 6:18. Parce que celui qui se livre à la conduite sexuelle pêche contre son propre corps. Vous voyez bien que le péché concerne le corps dans ce cas-là. Et si le corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que nous accueillons Dieu dans notre corps et nous ne pouvons pas avoir dans notre corps des comportements qui déshonorent Dieu. C'est la première erreur. La deuxième erreur qu'il nous faut corriger, c'est celle qui a été le cas de nombreux mystiques qui ont cru qu'ils allaient élever leur âme, c'est-à-dire devenir plus saints, devenir plus purs, devenir plus proches de Dieu, en maltraitant leur corps, en mortifiant leur corps. Ils étaient guidés comme par un désir de souffrir, dans l'idée qu'en souffrant, comme Christ a souffert à la croix, ils seraient plus proches de Dieu. Et vous voyez encore ça aujourd'hui dans les Philippines. Je vais mettre ma montre parce que j'ai toujours tendance à parler un peu longuement en institut biblique. Vous voyez ça encore dans les Philippines, où des chrétiens catholiques en viennent à se faire crucifier sur des croix par désir d'être proche de Dieu, peut-être de s'attirer la faveur de Dieu. Mais est-ce que Christ, quand il est mort à la croix, nous a offert un modèle doloriste? C'est-à-dire, est-ce qu'il nous a demandé de faire la même chose que lui, de rechercher la souffrance pour la souffrance, comme si c'était une vertu de souffrir, comme si c'était là le chemin de la sainteté? Non. Tout l'évangile nous indique que le chemin de la sainteté, ce n'est pas de chercher la souffrance, c'est de lutter contre le mal. Et lutter contre le mal de toutes ses forces, ça peut impliquer de souffrir pour lutter contre le mal, mais le chemin n'est pas de chercher la souffrance, le chemin c'est de lutter contre le mal. Hébreux 12, 4 dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » Donc vous voyez que le combat contre le péché implique une lutte du corps, qui peut être forte, violente, qui peut faire souffrir, mais on ne cherche pas la souffrance, on cherche à éliminer le mal. Rompre avec des mauvais désirs a un coût. Ça peut engendrer aussi une frustration des désirs, et cela aussi, ça a un coût. Et quand Jésus dit que si notre œil droit nous pousse à mal agir, on devrait l'arracher. Alors, Jésus parle de manière symbolique, il n'a jamais demandé à quelqu'un d'arracher physiquement son œil. N'empêche qu'il veut dire par là que renoncer au mal peut avoir un vrai coût dans notre vie. Parfois, il faut se détacher de certaines choses, de certaines habitudes dans notre corps pour sauver ce corps. Et Jésus dit que si nous devons arracher notre œil, Eh bien, c'est afin d'éviter de voir notre corps entier périr dans la gêne. Donc parfois, il faut traiter durement notre corps pour lutter contre le mal. Et Paul lui-même dit qu'il traite durement son corps, un peu à la manière d'un athlète. Il s'impose des privations. Pourquoi ? Pour remporter le prix. On sait bien qu'un athlète ne va jamais réussir à faire un bon concours, une belle course, s'il ne s'impose pas une discipline très stricte, s'il n'a pas un régime alimentaire bien réglé. Bien de même, dans la vie chrétienne, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a parfois une discipline, un régime à avoir pour mener cette course et aller jusqu'au bout. C'est pour ça que Paul s'oppose aux Corinthiens qui pensent pouvoir faire n'importe quoi, se laisser à des comportements moraux débridés, et sous couvert même de liberté de participer à des repas sacrés qui sont associés à des cultes païens, de participer à des orgies, de participer à des beuveries. Paul leur dit, vous ne pouvez pas faire cela. Apprenez à maîtriser votre corps. Apprenez à maîtriser vos pulsions. Paul évoque le terme privation. Parfois, il faut se priver de certaines choses pour avancer avec le Seigneur. Ce terme privation, enkrateia en grec, évoque la maîtrise de soi, une autodiscipline, une abstinence. En résumé, si vous voulez, l'éthique chrétienne n'est pas une éthique doloriste qui chercherait la douleur, mais c'est une éthique de la sainteté. On cherche la sanctification. Jamais l'Écriture ne méprise le corps. Et dans ce sens-là, Jésus n'encourageait pas non plus à l'ascétisme. L'ascétisme, c'est le fait de se détacher de son corps pour nourrir spécialement son esprit. Jésus n'était pas ascète. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'il était accusé à un moment donné d'être un glouton, un buveur, et de manger quand les autres jeûnent. Matthieu 11,9 ou Marc 2,18. Paul non plus n'était pas un ascète dans ce sens-là. Il n'encourage pas l'ascétisme. Il dit à un moment donné qu'on ne doit pas mépriser le corps et que ceux qui méprisent leur corps par des pratiques ascétiques, eh bien, cherchent de la futilité parce que ça n'a aucune valeur devant Dieu. Ça veut dire que si vous cherchez à vous approcher de Dieu uniquement en jeûnant, par exemple, et en priant, alors la prière est saine, mais le jeûne touche notre corps. Et si vous cherchez à vous approcher de Dieu uniquement par le jeûne, en pensant que vous allez être plus pur devant Dieu, que Dieu va davantage vous exaucer, vous êtes peut-être sur cette voie du dolorisme qui consiste à souffrir pour chercher la sainteté. Bien sûr, Dieu ne peut nous encourager à jeûner. Jeûner dans des situations où il y a un événement grave, où on doit prendre position parce que nous serions menacés dans l'existence du peuple de Dieu, comme c'était le cas de la reine Esther. Parfois, il faut jeûner pour avoir une disponibilité vis-à-vis de Dieu. Mais le jeûne a ce côté subtil qu'il peut aussi prendre une forme, je crois, négative quand il consiste uniquement à rechercher les faveurs de Dieu et à se dire « j'ai jeûné, donc Dieu doit m'exaucer maintenant comme je le lui demande ». Et là, on manipule Dieu finalement au travers du jeûne. J'aimerais dire encore un mot. Là, j'ai parlé du corps et de l'âme. Et certains chrétiens pensent néanmoins que nous ne sommes pas juste corps et âme, mais que nous sommes corps, âme et esprit. Il faut rajouter l'esprit à la dualité corps et âme. Et pour eux, en tout cas dans une certaine conception de trichonomiste, donc la trichonomie c'est le fait de considérer l'être humain en trois parties, pour certains d'entre eux, l'esprit serait cette partie de l'être qui permettrait de communiquer avec Dieu. C'est grâce à l'esprit que nous pourrions nous tourner vers Dieu et recevoir l'esprit de Dieu dans notre esprit. L'âme, elle comprendrait l'intellect, les émotions, la volonté. Avec notre âme, on pourrait servir Dieu ou on pourrait s'éloigner de Dieu. On peut mal utiliser son intellect, mal utiliser ses émotions, mal utiliser sa volonté. Mais l'esprit serait comme une partie plus élevée dans notre vie. C'est l'esprit qui serait touché quand nous devenons croyants. L'esprit d'une personne serait alors cette partie d'elle-même qui peut prier Dieu, qui peut adorer Dieu. Mais cette conception pose quand même beaucoup de problèmes. C'est comme si nous devions isoler l'esprit des autres parties. C'est comme si quand nous louons Dieu, nous ne louons pas Dieu avec notre âme. Or, quand vous lisez les psaumes, l'âme loue Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons vu avant que par notre corps, nous pouvons servir Dieu, que Dieu habite dans notre corps par son esprit. Donc l'idée d'isoler
l'esprit pour en faire l'instrument privilégié de communication avec Dieu ne me semble pas correct dans une perspective biblique. Mais il y a deux versets peut-être qui posent problème, et c'est là-dessus principalement que s'appuient les tenants d'une position trichotomiste. Le premier est dans 1 Thessaloniciens 5, 23, et il dit « Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc comme s'il y avait trois parties, soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » En fait, je pense que ce verset n'implique pas nécessairement que nous soyons formés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'accent, il est mis sur « que tout votre être ». C'est tout notre être qui doit servir à glorifier Dieu. Et en évoquant l'être, c'est comme si Paul rajoutait plusieurs dimensions de l'être intérieur en disant ben, que votre corps, que l'âme, l'esprit, il aurait pu rajouter que le cœur, que l'intelligence, loue le Seigneur. Et rien qui échappe finalement à l'action de Dieu dans notre vie, et toutes les dimensions de notre être doivent être là et doivent être sanctifiées. Voilà, je crois, l'intention de Paul dans ce texte. D'ailleurs, quand vous regardez l'ensemble des versets dans la Bible, vous voyez que très souvent le corps est associé, quasiment toujours même, le corps n'est associé qu'à une dimension de l'être intérieur. Vous avez par exemple l'être extérieur associé à l'être intérieur, ou la chair associée à l'esprit, ou le corps associé au cœur, ou le corps associé à l'esprit, ou le corps associé à l'âme. C'est toujours deux dimensions. Donc ici, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est plutôt l'idée que Paul veut dire ben, toutes ces dimensions de votre être intérieur doivent devenir saintes pour Dieu. Le deuxième verset qui peut poser problème est situé dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4, 12, où il a dit « Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge des sentiments et des pensées du cœur. » Donc, on a plusieurs couples, âme-esprit, jointure et moelle, les sentiments et les pensées du cœur. Et Paul nous dit que la parole de Dieu est tellement tranchante qu'elle est capable de venir diviser ce qui est inséparable. En fait, on n'arrive pas à séparer l'âme et l'esprit, tout comme on n'arrive pas à séparer jointures et moelles, tout comme on n'arrive pas à séparer les sentiments et les pensées. L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas en train de dire que l'homme est formé d'une âme et d'un esprit qui seraient séparés. Il dit plutôt l'inverse, que c'est tellement ensemble qu'on n'arrive pas à le séparer, que la parole de Dieu est capable de faire ce qui est incapable, en fait, de manière naturelle. J'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que cela change de savoir si l'homme est un, est duel ou est trois ? Je pense que la meilleure manière de maintenir un vrai équilibre dans la vie chrétienne, c'est la perspective biblique, de considérer que l'homme est formé de deux parties, d'un être extérieur et d'un être intérieur qui vont ensemble, qui ne s'opposent pas, mais qui sont là pour honorer le Seigneur. Un certain nombre de croyants, mais de moins en moins de théologiens qui ont vraiment étudié ces questions-là, pensent que l'homme est fait de trois parties. Je pense qu'il y a le réel risque de privilégier l'esprit et donc d'arriver à une hyper-spiritualité, d'arriver à quelque chose qui se déconnecte du corps en privilégiant l'esprit qui serait en contact avec l'esprit de Dieu. Et ça peut conduire à une spiritualité qui est désincarnée, où le corps n'a plus beaucoup de place. Donc, en tout cas, ce que le Seigneur nous amène à vivre et à faire, c'est qu'avec notre corps, qu'avec notre âme, nous puissions le louer, le célébrer, bénir les autres. Que tout mon corps, que tout mon être loue le Seigneur. Amen. De la main. Alors, la question pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est si corps et âme vont ensemble, que se passe-t-il pour le corps une fois qu'il est mort? Que doit-on penser à propos de l'incinération ou du don d'organes? Le corps, une fois mort, retourne à la poussière. Ce n'est pas exactement ce corps-là qui sera le corps de résurrection. Dieu ne va pas rassembler les atomes qui se sont dispersés pour les reconstituer de la même manière. Donc nous aurons un corps glorifié qui sera différent du corps que nous avons maintenant et en même temps qui sera dans la continuité ce que nous avons fait avec notre corps va se retrouver dans le corps que nous aurons plus tard. Ce n'est pas un corps qui est complètement déconnecté du corps que nous avons maintenant. Que doit-on penser de l'incinération ? Je pense qu'il n'y a aucune objection théologique à ce que ce corps puisse retourner à la poussière au travers d'une crémation. Si vous voulez, quelqu'un qui mourrait, par exemple, dans un accident de voiture, la voiture prend feu et il vivrait une forme de crémation de cette manière-là, Dieu est capable de lui redonner un corps nouveau dans l'éternité. Donc, Dieu n'est pas limité par la manière dont le corps va se décomposer. Qu'il se décompose de manière naturelle dans le cercueil ou qu'il se décompose par la voie de la crémation, Dieu va nous redonner un corps neuf. Il y a peut-être deux remarques quand même et deux réserves que je souhaite faire. La première, c'est que certains ont utilisé ça, surtout au XIXe siècle, pour essayer de s'affranchir de Dieu en pensant qu'en mourant de cette manière-là ou en passant par la crémation du corps, eh bien, Dieu ne pourrait plus les retrouver. Si c'est cette motivation-là qui habite quelqu'un, je dissuaderais fortement la personne de le faire. La deuxième raison qui personnellement me pousse à privilégier quand même l'inhumation plutôt que la crémation, c'est le fait qu'il y a une sorte de symbolique. L'homme retournera à la poussière. La symbolique de l'homme qui retourne à la poussière me semble mieux observée par l'inhumation que par la crémation. Mais ceci dit, ça n'empêche pas la crémation. Pour le don d'organes, moi j'ai une position un peu pareille, c'est-à-dire que rien n'empêche que mon corps puisse servir à d'autres, surtout s'il est déjà décédé, puisque Dieu n'est pas limité par cela pour reconstituer mon corps. Je me pose une autre question quand même, certains sont à cet égard plus ouverts que moi je pense, je me pose la question de savoir jusqu'où notre corps peut avoir des pièces de rechange ici et là. Jusqu'où je peux recomposer mon corps parce que certains me donnent des organes. À partir de quand je prends la main sur mon corps et je ne laisse plus Dieu faire les choses? Et cette question-là, chacun doit y répondre personnellement. Je crois que théologiquement, on ne peut pas s'opposer au don d'organes, mais je pense qu'il faut réfléchir au sens qu'il y a là-derrière, à ce que ça implique pour la personne qui donnerait, et à ce que ça implique pour la personne qui reçoit aussi. Est-ce que ça veut dire que je me crois immortel, que je veux continuer de vivre éternellement, que je ne veux pas accepter le destin qui est le mien, que les jours que Dieu m'a donnés. Autre question, Jonathan. Tu poses une question très vaste qui est celle de savoir comment nous pouvons manifester notre solidarité sur un plan plus large, de manière politique quelque part, et comment faire avec d'autres mouvements politiques qui ne partagent pas la même anthropologie que nous, hein. Je crois qu'effectivement, il y a des combats que l'on peut mener seul, mais il y a aussi parfois à réfléchir en tant que croyant comment nous pouvons ensemble mener des luttes ou des combats que l'on croit justes et sur un plan plus large que juste la sphère individuelle ou la sphère de la communauté familiale. Dans ces combats plus larges, je prendrai un autre exemple qui va peut-être illustrer cela. C'est quand il a fallu combattre l'esclavage, par exemple, il a fallu s'associer à des personnes qui avaient sans doute d'autres convictions, qui n'avaient pas toujours des convictions chrétiennes, mais parfois sur un plan sociétal, il convient de s'associer à d'autres sans se compromettre sur nos propres valeurs, mais pour défendre une cause. De même, avec des mouvements antispécistes ou d'autres mouvements qui auraient des philosophies radicalement différentes de la foi chrétienne, il y a peut-être certains combats qui sont possibles ensemble, mais je crois qu'il faut être très attentif à ce que ça n'entache pas à notre intégrité devant Dieu et que ça ne nous amène pas à cautionner parce qu'on serait utilisé par d'autres mouvements et que finalement on agit contre nos propres convictions. Donc la question est toujours savoir dans quelle mesure s'associer à d'autres peut permettre à d'autres de nous récupérer à leurs propres fins politiques et du coup dévoyer nos intentions et être exploité par les autres. On pourrait parler plus longuement de cela, mais en deux mots, c'est ce que j'aurais envie de répondre. Une dernière question, oui, Irène. Oui, tu soulignes quelque chose d'important en disant que la greffe d'organes, l'implantation d'ovocytes dans l'utérus de la femme, tout cela n'est pas garanti qu'on reste finalement très amateur, même malgré tous les progrès de la science d'aujourd'hui, et donc que Dieu reste souverain. Ce que je souhaite, tu as raison de le dire et de l'affirmer, ce que je souhaitais dénoncer, c'est parfois l'illusion de la toute-puissance qu'on peut avoir en pensant maîtriser ces outils et les raisons qui peuvent nous pousser aussi à recourir parfois à ces techniques médicales. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises. Avoir une greffe d'un organe peut parfois sauver des vies de manière très utile et loin de moi de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais je pense qu'il est toujours bon d'analyser les motivations qui sont sous-jacentes. Merci de votre attention. Que le Seigneur